Chapitre 13. La ferme des trois corbeaux. Le convoi avançait lentement dans la plaine. Les 40 chevaux et 10 chariots s'étiraient sur une longue file, dans une cacophonie de martèlements de sabots, de grincements d'essieux, de cliquetis de casques et d'éperons d'acier. Des rongeurs affolés, lièvres ou lapins de garenne, s'enfuyaient devant l'imposante caravane qui écrasait tout sur son passage. Des oiseaux noirs planaient au-dessus d'eux, traquant les cadavres de musaraignes que l'expédition abandonnait derrière elle. Braza, assis sur le chariot de tête, se concentra longuement sur sa carte avant d'apostropher Bill.
« Si mes calculs sont bons, nous approchons de la ferme des Trois Corbeaux. »
Sans descendre de son cheval, Bill sortit la précieuse longue-vue que Mordelia lui avait confiée. Dès qu'il la pointa, un grand sourire s'afficha sur son visage rond.
« Je vois un drapeau vert »
cria-t-il.
« L'étendard du grand cerf flotte sur le toit de la ferme. Ce soir, nous dormirons dans un vrai lit et mangerons, boirons autant que nous en avons envie !»
Une clameur parcourut le convoi. La ferme des Trois Corbeaux, enfin! Les cavaliers, depuis de longs jours, en avaient assez des nuits passées dans l'obscurité, parfois sous la pluie, à se tasser sous une bâche, à se partager des légumes secs et des fromages durcis, à progresser vers le sud, kilomètre après kilomètre, tout en quadrillant la plaine pour rechercher le moindre primitif caché dans une grotte ou une cabane abandonnée. La ferme des Trois Corbeaux était le poste le plus avancé au sud du nouveau monde connu. Elle avait été occupée pendant des années par 4 enfants, Paturin, Amarante, Mélisse et Luce, plus connus sous le nom d'herbivores ou de famille sauterelle. Lors de la grande sécheresse, l'été de leurs 15 ans, les 4 primitifs étaient partis tenter leur chance au nord et avaient croisé des patrouilles du château. Le conseil, mis au courant de l'existence de cette ferme abandonnée, avait décidé d'envoyer quelques volontaires l'exploiter. Le convoi accéléra, porté par une joyeuse euphorie. Bientôt, comme surgit de nulle part au milieu des champs de blé, la ferme apparut. Ils aperçurent d'abord les hauts murs de pierre blanche, formant un U presque parfait, couronné d'une tourelle de chaque côté. En s'approchant, ils distinguèrent les grands rideaux de peupliers plantés devant la bâtisse pour la protéger du vent, puis le puits et la mare creusés au centre de la cour, et enfin, dominant l'ensemble du corps de ferme, un immense colombier au toit aussi pointu qu'un clocher. Bill, Jean d'Arc et Hakan firent trotter leurs chevaux pour se porter à l'avant de la caravane. Ils se positionnèrent de front tous les trois, Bill au centre, Jean d'Arc sur sa droite et Hakan sur sa gauche. Les trois cavaliers avancèrent du même pas. Trois chevaliers aux allures de héros de légende, dans l'éclat de leurs épées et de leurs boucliers. Trois aventuriers au destin de roi, du moins si l'on prêtait foi à la prophétie de Chrysante. La porte de la ferme s'ouvrit devant eux, et un hôte les accueillit avec de grands gestes chaleureux.
« Bienvenue à tous! Bienvenue chez vous !»
Ils écarquillèrent les yeux. Ils savaient que Pépin avait été nommé administrateur de la ferme des Trois Corbeaux par Mordelia, mais il peinait à le reconnaître. Le fragile moineau craintif était devenu un ado sûr de lui. Il portait des bottes et une longue veste de cuir, un chapeau à bord large, encore plus impressionnant que celui de Wayne, et s'était laissé pousser une barbichette un peu ridicule au bout du menton.
« Je vous en prie !» continua Pépin en ouvrant les bras. « Détendez-vous ! Nous attendons votre arrivée depuis des jours. Mes fermiers vous ont préparé de quoi vous reposer, vous l'avez, et pour ce soir, un exceptionnel banquet. »
Une heure plus tard, Pépin faisait visiter la ferme à Bill, Jean d'Arc et Hakan. Ils étaient montés jusqu'au dernier étage du colombier, au centre de la cour. Des dizaines de pigeons voltigeaient autour d'eux, dans un nuage de plumes blanches et une odeur de fiente persistante. De leur poste d'observation, ils pouvaient découvrir le paysage à des kilomètres à la ronde, tant le panorama était plat. Le décor se résumait à une succession de champs de blé jeunes, quelques rares bosquets, un ou deux autres corps de ferme, tous abandonnés. L'ensemble donnait l'impression d'un immense désert vert dont la ferme des Trois Corbeaux aurait été la seule oasis.
Ce colombier est l'unique lien que nous avons avec le château, expliquait Pépin. Un pigeon arrive tous les matins, apportant un résumé de la feuille de chou, et j'en renvoie un chaque soir avec mon rapport pour le conseil, même s'il ne se passe jamais rien ici. Jeanne d'Arc plissa les yeux pour apercevoir l'horizon, légèrement flouté par une brume de chaleur. Jusqu'où s'étend le domaine de la ferme ?
Aussi loin que vos yeux peuvent voir, répondit Pépin.
On n'a pas trop de problèmes avec les voisins. Alors, la seule limite à notre exploitation, c'est le nombre de bras disponibles pour bêcher, désherber, semer, moissonner. Ma ferme fournit près de la moitié de la farine, du maïs et de l'huile que vous consommez à Versailles.
Le jour commençait à tomber sur la plaine. Les rayons du soleil coloraient d'or les épis de blé, de maïs et de toutes les autres plantes qui poussaient en sillons parfaitement parallèles jusqu'à l'infini. Les visiteurs aperçurent sur l'un des chemins tracés en ligne droite entre les champs un groupe d'ados marchant en file indienne, équipés de lourds outils de jardinage.
« Et voici mes fermiers qui rentrent à l'étable !» déclara fièrement Pépin. « Les 35 prémâts que le conseil m'a octroyés, ils sont d'une incroyable robustesse !» Infatigable, si on sait bien les traiter. C'est le secret, et il faut les respecter. Regardez, ils dorment là-bas dans l'étable, le grand bâtiment au toit de chaume. On change leur paille une fois par semaine, et la compagnie des vaches et des bœufs leur assure une température confortable, même en plein hiver.
Les prémâts se rapprochaient. Akane remarqua qu'ils portaient de lourds bracelets de fer aux chevilles. Pépin suivit son regard et précisa, toujours aussi fier de son organisation.
Le seul problème avec les prémâts, c'est qu'ils sont un peu trop tête en l'air. De vrais bébés. Ils sont capables de suivre un papillon ou un lapin et de se perdre à moins d'un kilomètre de la ferme. Quand ils travaillent dans les champs pour éviter d'avoir à leur courir après, on leur attache des boulets de fer aux pieds ou on les enchaîne entre eux. Hiver dernier, on en a retrouvé deux noyés dans le marais aux libellules.
Akane se mordit soudain les lèvres. Fermant la marche derrière le groupe de prémâts, il venait de reconnaître quatre membres d'une ethnie nouvelle qu'il ne connaissait que trop bien. « Et eux ?» demanda-t-il sans masquer son dédain pour tout ce que leur racontait Pépin.
« Eux ? Ce sont mes gardiens, mes chiens de berger, si vous préférez. Ils sont chargés de ramener mon troupeau à l'étable sans qu'il manque une seule bête. J'ai essayé d'embaucher toutes sortes de primitifs depuis un an, mais croyez-moi, rien ne vaut les ombrageurs. » À condition de bien les payer, ils vous obéissent sans discuter. Autre avantage, ils parlent notre langue, mais savent se taire. Leur langue ne claque pas souvent dans leur palais, hein? Mais du moment qu'ils savent faire claquer leur fouet...
Pépin leur adressa un clin d'œil, auquel seul Bill répondit.
Ah, le seul problème de ces ombrageurs, poursuivit le moineau, c'est qu'ils deviennent doux comme des chatons dès que le soleil s'est couché. Mais on ne bêche pas les champs la nuit, n'est-ce pas? Alors, pas de souci. Même si on possède l'électricité ici.
Pépin leur désigna du doigt trois hautes éoliennes qui dominaient la cour de ferme.
C'est notre dernière innovation. S'il y a assez de vent et qu'elle tourne suffisamment, je peux avoir autant de lumière et de chauffage dans mon appartement que dans la chambre du roi à Versailles. Mais assez discuté, allons boire et manger.
Le repas fut grandiose. Pépin avait poussé l'hospitalité jusqu'à inviter les 45 membres de la mission Grand Sud. Les plats étaient disposés sur la plus grande table de la salle à manger de la ferme et chacun se servait à volonté. Un prémât entretenait un feu de cheminée dans lequel deux autres faisaient griller du maïs, des légumes ou même des pigeons farcis pour les convives mangeant de la viande. Et on ne manquait pas de pigeons à la ferme des Trois Corbeaux.
« Si Agnel avait été là, pensait Akane, il aurait étranglé à main nue tous les cuisiniers, Pépin en premier. » Même chose pour Sabi, vu la façon dont sont traités les prémâts.
Après le dessert, un assortiment de cakes au blé noir fourré au raisin, Pépin proposa à ses trois prestigieux invités de passer dans le salon de thé pour y terminer la soirée. Le salon était aussi intimiste que la salle à manger était vaste. Un poêle à bois réchauffait la pièce, meublée de quatre canapés disposés en carré, et d'une table basse sur laquelle une bouilloire et trois tasses étaient posées.
« Je vais vous faire une confidence !» commença Pépin. « Vous me semblez digne de confiance !»
Il agita une cloche dorée et la porte s'ouvrit. Tous s'attendaient à voir à nouveau apparaître plusieurs prémats dévoués, mais ce furent trois primitifs timides qui s'avancèrent, deux très grands et un bien plus petit. Akan les reconnut immédiatement. Paturin, Mélis et Luce, trois des quatre herbivores composant la famille Sauterelle. Ils portaient avec précaution des cruches de cristal.
« Posez ça là !» leur ordonna Pépin. « Mélis et Luce vous ont préparé une petite dégustation spéciale. La menthe magique qu'ils vont vous faire goûter n'a rien à voir avec celle que vous trouvez au château !»
Pépin éclata d'un rire gras. Une nouvelle fois, seul Bill accompagna.
Pour vous dire quelques mots sur la ferme des Trois Corbeaux, poursuivit-il. N'oubliez pas que nos quatre herbivores ont grandi ici. C'est entre ces murs qu'ils ont mis au point leur fameuse recette de menthe magique. Un mélange d'herbes qui pousse à proximité, dont ils détiennent le secret, ces petits malins.
Les trois membres de la famille Sauterelle, sans réagir, versaient avec précaution le liquide vert dans les tasses. Une forte odeur mentholée envahit le salon.
« Ce truc a assuré leur fortune, et la nôtre !»
Le moineau adressa un clin d'œil appuyé à ses trois invités.
« Le blé, le maïs, le poivron, les haricots verts et tout ce que vous voudrez, c'est formidable, faut bien se nourrir, mais le véritable trésor de cette ferme, croyez-moi, ce sont les champs de Spitvert. Et c'est grâce à eux que Mordelia m'a promis 15 prémas et 3 ombrageurs supplémentaires, et pas pour récolter des poireaux et des navets !»
Pépin et Bill furent encore les deux seuls à s'esclaffer. Les visages de Jean d'Arc et d'Akan restaient au contraire sévères, méfiants, tels ceux de deux inspecteurs ne se laissant pas facilement impressionner.
« Mordelia a été la première à s'intéresser à la culture de la menthe magique, » expliqua Pépin. « Les herbes, c'était déjà son truc du temps du tipi. Pas vrai, les gars ?»
Bill et Akan ne purent que confirmer de la tête.
Mais à partir de sa rencontre avec les herbivores, elle a compris que tout le monde allait adorer leur trouvaille. Le dog, comme il l'appelait. Ça aurait été sacrément dommage que ces primitifs gardent ce trésor pour eux. Allez, on goûte maintenant. Pour les fillettes, les herbivores ont mis au point une version assez légère, le soft dog. Ça se consomme surtout en tisane. Mais puisqu'on est entre hommes, je propose qu'on passe tout de suite aux choses sérieuses. De la speed verte pure, le hard dog. Ça te fait planer après 2 gorgées. Un truc de dingue. T'oublies tes soucis, tes petits bobos, ta fatigue. On enfile au préma tous les soirs, ils en sont complètement accros. Sans le hard dog, ils ne tiendraient pas la cadence des travaux. Mais je crois que ce truc finit par leur bouffer le cerveau. Enfin, va savoir si au départ ils en avaient un.
Bill explosa de rire tout en acceptant volontiers la tasse de hard dog que Pépin lui tendait. Le moineau se tourna vers Akan avec un autre mug, mais à sa grande surprise, le géant déclina.
« Non, merci. Je crois que je vais me contenter de la boisson de fillette. »
Pépin roula des yeux stupéfaits. Akan mesurait 2 têtes de plus que lui. Il n'avait jamais vu un type aussi musclé, tout l'inverse d'une petite nature.
« Je vais également rester sur le soft dog, » ajouta Jean d'Arc sur le canapé d'à côté. « Un soldat doit conserver sa lucidité, de jour comme de nuit. »
Bill, qui avait déjà trempé ses lèvres dans sa tasse de speed verte, toussa légèrement. Il sentait déjà une douce euphorie monter en lui et n'avait aucune envie, au prétexte qu'il avait la responsabilité de l'expédition, de ne pas céder à la curiosité, contrairement à ses 2 rabat-joies de Jean d'Arc et Akan. Le hard dog, dangereux, si ses prémats en prenaient, ce n'était pas quelques tasses de tisane qui allaient retourner la tête de King Bill. D'ailleurs, les inventeurs de cette boisson magique, ces 3 idiots d'herbivores assis sagement sur leur canapé, avaient l'air d'être les primitifs les plus inoffensifs du Nouveau Monde. Akan se leva tôt le lendemain matin. Le soleil n'avait pas encore échappé au tronc des peupliers alignés devant la ferme comme les barreaux d'une immense fenêtre. Bill dormait à côté de lui, dans une petite chambre mansardée sous le grenier. Le ministre des Voyages avait déliré toute la nuit, parlant tout en suant et tremblant, se retournant sans cesse dans son lit. Il était monté se coucher bien plus tard que ses 2 compagnons, avait allumé la lumière en tentant d'avancer à tâtons, s'était excusé d'un rire niais, avait désespérément essayé de retirer son pantalon, puis s'était effondré sur les draps, son jean retroussé jusqu'aux chevilles, bavant tellement sur son oreiller qu'Akan avait cru qu'il allait s'étouffer. L'effet magique du hard dog. Akan glissa dans sa poche le cœur d'argile offert par Sabi dans la cour d'honneur le jour de son départ. Il l'avait posé avant de s'endormir sur la table de chevet, au plus près de ses yeux. Le géant descendit l'escalier de la ferme et sortit par la porte principale. Akan aimait respirer l'air frais chaque matin, courir quelques kilomètres dans le calme et le silence, quand la plupart des autres ados dormaient encore. Il était presque toujours le premier levé au château. Pas ici. Il entendait du bruit. Il repéra rapidement l'origine de l'agitation matinale. Les éclats de voix provenaient de l'étable au toit de chaume. Akan hésitait entre s'éloigner à petite foulée ou aller observer ce qui se tramait sous la grange quand il vit les premiers primats sortir. Deux ombrageurs, Akan reconnut Pio et Fosco, tenaient chacun un fouet dans la main. Il les faisait claquer sur le dos d'une dizaine de malheureux ados qui paraissaient à peine se réveiller et se protégeaient comme ils le pouvaient en enfouissant leur tête entre leurs bras. Akan comprit que les tortionnaires menaient les primats vers l'éolienne la plus proche. Une fois parvenus à destination, les ombrageurs enchaînèrent les primats par les chevilles à une grande roue de bois clouée à la base du moulin. Le sang d'Akan ne fit qu'un tour. Il devait intervenir, réduire en bouillie ces monstres d'ombrageurs, libérer ses primats et surtout demander des explications à Pépin.
Déjà réveillé ? Fit une voix dans son dos.
L'administrateur de la ferme se tenait derrière lui. Ses yeux vitreux sortaient presque de leurs orbites, comme si Pépin n'avait pas dormi de la nuit. L'effet du hard dog, là encore.
Moi aussi, comme tu vois, je suis déjà debout. Crois-moi, j'aurais préféré rester au lit, mais il n'annonce pas le moindre souffle de vent sur la plaine aujourd'hui. Alors, on est obligé de revenir aux bonnes vieilles méthodes. L'huile de sueur. On accroche les prémâts à l'éolienne et il pousse la turbine. Tu peux me croire, je ne fais pas ça de gaieté de cœur. Je préférerais les voir travailler dans les champs plutôt que de les faire tourner comme des hamsters. Mais pas le choix. Il faut de l'électricité si tu veux de l'eau chaude dans ton bain et du lait frais dans ton bol le matin.
Akan se demanda s'il allait envoyer Pépin valser dans la fosse à Purin à 10 mètres de là, ou l'attacher lui-même à la roue de l'éolienne en compagnie des ombrageurs et les faire tourner à coups de fouet. À moins qu'il ne pende le moineau par les pieds aux poutres du colombier derrière eux. Le géant leva la tête au moment précis où un pigeon passa au-dessus d'eux, plana quelques instants et alla se poser sur l'épaule de Pépin.
« Ah !» fit l'administrateur sans même remarquer la froide colère du géant. « Pile à l'heure !»
Avec l'habileté de l'habitude, il détacha la feuille de papier roulée accrochée à la patte du pigeon voyageur.
« Ma petite feuille de chou !» se réjouit le moineau. Oh, « Qu'est-ce que je deviendrais sans elle ? J'attends les résultats de la journée de sélection. J'ai deux candidats qui passent le CAPE. Amarante, la 4e herbivore, et Chado, mon meilleur ombrageur. S'ils sont promus, après quelques semaines de cours pour bien leur bourrer le crâne et s'assurer de leur loyauté, je les récupère et ils pourront faire le travail à ma place. »
Il commença à déplier la feuille verte. Aussitôt, son visage se fendit d'une vilaine grimace.
« Ah merde !»«
Quoi ?» s'inquiéta Akan.
« Le concours est reporté. On ne sait pas quand. Toutes les copies se sont envolées. »«
Un accident ?»
Non, d'après la feuille de chou, ce serait plutôt un attentat. C'est le mot qui est employé, en tout cas. Mais tout est rentré dans l'ordre. Les terroristes ont été arrêtés.
Les terroristes? S'étonna Akan, osant même un sourire. Rien que ça.
D'après le journal, c'est encore un coup des Lolly Girls et du cerveau de cette bande de folles, Sabi. Mais cette fois, elle n'est pas près de recommencer. Elle a été prise en flagrant délit et a été directement enfermée à la conciergerie.
Akan galopait. Il n'avait pas prononcé un mot. Il n'avait pas pendu Pépin par les pieds. Il n'avait pas eu une seule pensée pour les primats tournant autour de l'éolienne à grands coups de fouet. Il n'avait pas prévenu Jean d'Arc, ni Bill. Il avait simplement sauté sur Mistral, le pur sang le plus rapide, le plus endurant, et lui avait enfoncé ses talons dans les côtes en tirant le plus fort possible sur les rênes.
« Go, go, go !»
La plaine défilait. Il ne dormirait pas. Il ne mangerait pas. Il ferait galoper Mistral jusqu'à l'épuisement. Il devait arriver à Paris aussi vite qu'il le pourrait. Sabi avait été arrêtée la veille au matin. Elle était donc déjà enfermée depuis une journée entière. Cela ferait 2, presque 3 jours de captivité avant qu'il vienne la délivrer. Il s'en voulait tant. Qu'il avait été naïf. Mordelia l'avait éloigné pour mieux préparer son coup. Il aurait dû se douter que cette sorcière et ce tordu de Génor ne digéreraient pas les propos de Sabi dans la feuille de chou. Si jamais il pose la main sur un seul de ses cheveux, sur un seul centimètre de sa peau. Akan, tout secrétaire général de la paix qu'il restait, était prêt à tuer si on touchait à celle qu'il aimait. Il dut tout de même s'arrêter quelques minutes pour faire boire Mistral à l'eau d'une rivière et le laisser se reposer. Il en profita pour cueillir quelques framboises sauvages en s'arrachant les mains aux ronces, se fichant du sang. Il effectua moins de 3 haltes en tout. Il poursuivit sa chevauchée de nuit, au clair de lune, s'obligeant à seulement trotter, autant pour ménager Mistral que pour éviter de heurter les obstacles dans la semi-obscurité. Dès les premiers rayons de soleil, il recommença à galoper. Il entra dans Paris au petit matin. Les rues paraissaient plus désertes que jamais. Les sabots de son étalon claquaient sur le pavé. La ville lui sembla un village à la vitesse où il la traversa. Mistral avait senti la proximité de son écurie et allongeait encore ses foulées. Akan l'encourageait, bride abattue. Les quais de la Seine et la très grande bibliothèque défilèrent en un éclair. Akan apercevait au loin le tipi, mais il fixait davantage le sanctuaire. La conciergerie se situait juste en face, sur l'île au milieu du fleuve. Il tira violemment sur les rênes de Mistral pour le faire changer de direction. Le cavalier et sa monture s'engagèrent au grand galop sur le pont, droit vers la prison. Des sacs de ciment traînaient sur le sol. Mistral les franchit d'un bond de champion. En quelques secondes, le pont fut traversé. Encore 20 mètres, et le géant stoppa sa monture épuisée devant l'épaisse porte de bois cloutée de la conciergerie. Il flatta du plat de la main l'encolure de son cheval. « Merci, Mistral », tout en sautant sur ses pieds. Curieusement, aucun garde ne faisait le guet devant la porte de la prison. Il tambourina jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Son plan était simple. Dès que quelqu'un glisserait la tête dehors, Akan forcerait l'entrée et foncerait tel un bélier. Il avait ruminé sa stratégie pendant les heures passées à chevaucher. La meilleure solution était de ne poser aucune question, de ne rien négocier, d'écarter comme des brindilles tous ceux qui se mettraient sur son chemin, d'avancer jusqu'à la cellule de Sabi, d'en faire sauter la grille et de la délivrer. Et que quelqu'un essaie de l'en empêcher. L'image d'un oiseau en cage ou d'un grillon dans une boîte d'allumettes lui revenait sans cesse. Sabi n'est pas une fille que l'on enferme. Sabi, c'est l'insouciance et la liberté. Sabi était intouchable, et ceux qui avaient cru le contraire allaient le payer. La porte ne s'ouvrait toujours pas. Elle était trop épaisse pour être enfoncée. Akan continuait donc de la frapper de toutes ses forces, provoquant un épouvantable vacarme qui finirait bien par faire réagir les gardiens. Il dut attendre un quart d'heure supplémentaire à frapper jusqu'au sang les battants de bois de la porte cochère, avant qu'enfin on vienne à sa rencontre. 5 gardes civils se postèrent derrière lui, muets, encagoulés, impossibles à identifier, une bourse bien remplie pendant à leur ceinture. Ils avaient pris soin de sortir de la prison par une autre porte que celle devant laquelle Akan les attendait. Ils auraient pu prendre le géant à revers, mais les 5 ados, accrochés nerveusement à leurs baux, ne semblaient pas chercher l'affrontement. Akan fit glisser son regard sur leur matricule. 27, 3, 14, 33, 20. Avant d'ordonner de toute son autorité, « Donnez-moi les clés de cette porte, ou je vous arrache vos cagoules et je me sers de vos crânes pour la défoncer. » Une lucarne s'ouvrit au-dessus de lui. La fenêtre se réduisait à une simple meurtrière par laquelle aucun ado, même le plus maigre, n'aurait pu se glisser. Le visage de Novak apparut dans la fenêtre entre les pierres, dévoilant en alternance son cache-œil de cuir noir et son œil valide.
« Du calme, Akan ! La violence n'est jamais une solution !
Ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre.
Qu'est-ce que tu fous là? Ouvre-moi!
Je suis le nouveau ministre des punitions, nommé par le conseil en attendant que Jeanne d'Arc revienne.
Alors descends, qu'on s'explique.
Il n'y a rien à expliquer. Sabi est enfermée avec Valère à la conciergerie. Elle sera jugée dans quelques jours. Le procès sera impartial, tu en as ma parole. Les jurés seront choisis par Mordelia et le grand cerf eux-mêmes. Si tu t'en prends à ces soldats, tu ne feras qu'aggraver son cas. Quant à ouvrir la porte de la prison, n'y compte même pas.
Novak fit un signe de la main aux gardes civils qui disparurent aussi vite qu'ils étaient apparus, puis referma sa lucarne. Akan resta seul devant le mur de pierre et la porte de chêne, dans le silence matinal de la ville fantôme. Il recula de quelques pas pour observer la façade lisse de la conciergerie et vérifier qu'elle était impossible à escalader. Sa main glissa dans sa poche sans même que son cerveau la commande et en sortit le cœur d'argile de sa bille. Les pensées d'Akan se bousculaient. Derrière laquelle de ses fenêtres barricadées, Sabi se trouve-t-elle? Si elle n'a pas réagi à mes cris et mes coups sur la porte, c'est sans doute qu'elle n'est pas détenue dans l'une des cellules donnant sur la rue, mais dans celle plus nombreuse, surplombant la Seine. Il ne parvenait pourtant pas à détacher son regard des fenêtres, serrant son poing si fort que quand il ouvrit enfin sa paume, le cœur d'argile n'était plus qu'un petit tas de poussière dont la poudre rouge glissait déjà entre ses doigts. Alix et Zizo examinaient chaque marche de l'escalier sous le petit arc de triomphe du carrousel, au centre du verger, à quelques mètres de la pyramide brisée. L'ancien jardin potager du château n'était plus qu'un jardin abandonné, oublié de tous depuis que celui de Versailles l'avait remplacé. Les rosiers, redevenus sauvages, avait grandi à une vitesse surprenante, envahissant les autres plantes potagères jadis cultivées. Il n'y avait plus aucune trace de carottes, de citrouilles, de pommes de terre ou de navets. Les animaux de la ville avaient dû les dévorer jusqu'aux racines. Alix et Zizo, après avoir fouillé pendant plusieurs jours les galeries du Louvre sans rien trouver, recherchaient maintenant le moindre indice dehors, sans s'éloigner de la pyramide. Au plus profond de la terre et au plus haut de la lumière. Pourtant, Alix doutait de plus en plus que le laboratoire Utopie et son empire de la mort se trouvent ici. Les quatre traits forment une pyramide, argumentait Zizo. Ça ne peut pas être une coïncidence.
Trois traits aussi, répliquait Alix.
Et c'est plus souvent ainsi qu'une pyramide est représentée, par un simple triangle. Si ce foutu labo était ici, on l'aurait trouvé. Une silhouette sombre, plus large et plus haute que les statues de bronze recouvertes de lierre, leur cacha soudain la lumière. Alix et Zizo levèrent les yeux. Akan se tenait devant eux, en haut de l'escalier, les yeux rougis.
Unella m'a dit que je vous trouverais là.
Il n'avait pas besoin d'évoquer ce qui s'était passé, ni même de prononcer le nom de Sabi. Il partageait le même désespoir, la même peur, le même sentiment d'impuissance.
« On a tout essayé !» fit Alix en montant les marches de l'escalier. « Dès qu'on a appris que Valère et elle avaient été arrêtées !»
Elle ne put continuer. Elle n'avait pas la pudeur des garçons. Des rivières de larmes inondèrent ses joues.
« On !» bredouilla Zizo d'une voix tremblante d'émotion. « On a essayé de parler à Ogénor et à Mordelia. Liu a tenté de provoquer un conseil exceptionnel. On manifeste toutes les heures sous les fenêtres de la chambre du roi et de la reine avec toutes les Lolly Girls, mais ils ne veulent rien entendre. Ils répètent toujours le même couplet par la bouche de Novak. Il faut attendre le procès. »
Alix s'était jeté dans les bras d'Akan. Le géant la serra contre lui tout en bafouillant de peur et de colère.
« Et vous... vous avez des nouvelles ?»«
Aucune. Sabi et Valère sont au secret. C'est le mot qu'ils ont employé. On ne sait même pas s'ils leur donnent à manger ou s'ils ont été torturés. »«
Ils n'oseraient pas, » affirma Akan.
Aussitôt, le regard de géant se troubla, mais aucune larme ne coula. Zizo, impuissant face au désespoir de ses deux amis, se força à positiver.
« Ils vont les libérer. C'est obligé. Ils ne pourront pas les garder prisonniers après le procès. »
Alix avait essuyé ses yeux sur la veste d'Akan. Son regard était sec et dur maintenant.
« Non, »
asséna-t-elle.
« Je n'ai aucune confiance dans la justice de Mordelia, et encore moins dans celle de Génor. Ils vont chercher à se venger. »